Le temps des écrivains, une émission proposée par Christophe Onodibio.
Bonjour, il est 17h et c'est le temps des écrivains, le magazine littéraire de France Culture. Cette semaine, une émission, un dialogue, une rencontre autour de l'engagement de l'écrivain, mais aussi de son observation des mécanismes du pouvoir, de ceux qui le subissent et des marges où celui-ci parfois s'exerce. On est avec l'auteur d'un premier roman nommé Roberto Saviano, oui, l'auteur de Gomorra, qui publie son premier roman, Piranha, et Thomas B. Reverdy qui publie, lui, L'hiver du mécontentement. Bonjour Thomas Reverdy.
Bonjour.
Bonjour Roberto Saviano.
Bonjour.
Antonella Vignoli, vous allez être l'interprète de Roberto Saviano, donc bonjour à vous.
Bonjour.
Alors Roberto Saviano, je rappelle que vous êtes devenu un phénomène mondial avec cette immersion vertigineuse dans la mafia napolitaine que vous nous proposiez avec votre premier livre Gomorra, paru en 2006, porté à l'écran par Matteo Garrone, devenu une série aussi, et puis avec Extra Pur en 2013, un voyage tout aussi mouvementé dans l'économie de la cocaïne. Deux livres qui ne vous ont pas valu que des amis, mais des menaces de mort qui vous ont donné droit à une escorte policière que Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, menaçait d'ailleurs de vous enlever. On vous entend en effet beaucoup, Roberto Saviano, contre le ministre de l'Intérieur italien, que vous avez traité de... Alors, c'était quoi le mot exact?
Le chiamato buffone.
Je l'ai appelé buffon.
Voilà.
Clown.
Clown, bouffon. C'est quoi exactement? Parce qu'en français, on connaît le mot bouffon, celui qui amuse aussi les puissants. En Italie, ça correspond à quelle réalité, le bouffon?
Bouffon est celui qui...
Le bouffon...
théâtralise la propre agressivité.
C'est quelqu'un qui rend un peu théâtral son agressivité.
Plus à parole que nei fatti.
Plus avec des mots que
avec les faits. Qui met en scène continuellement pour attirer l'attention.
Se met en scène constamment
quello
pour attirer l'attention.
Che cerca la baruffa, lo scontro.
Qui cherche toujours
sempre
à
per,
se disputer, qui cherche
ottenere la, qualcosa, insomma.
La bagarre pour obtenir quelque
Mi
chose.
Mi è sembrato perfetto come sintesi. Sì, di quello che sta
che
facendo
è pour
questo ministro degli interni che in realtà
ce ministro
è il vero comandante
est en train de faire et qui en réalité est vraiment le chef le commandant
italiano.
De ce gouvernement italien.
Vous avez parlé de théâtralisation, donc au fond c'est un terme assez littéraire finalement que vous avez utilisé pour lui.
Sì, secondo me, infatti, la parola buffone è perfetta
sì,
per
effetti, cioè, termo.
È un meccanismo che quello del buffone che deve
c'est lui du buffon.
Provare verso il proprio interlocutore a farlo divertire.
Essayer de amuser son interlocuteur.
E lui questo fa anche, no? Fa divertire
i
suoi lettori.
Indipendentemente
da quello che può realizzare.
Un peu indépendamment de ce qu'il peut réellement réaliser.
Alors vous revenez aujourd'hui en librairie avec Piranha, je le disais, c'est votre premier roman, il paraît chez Gallimard, il est traduit par Vincent Reynaud. C'est un texte que j'ai adoré, vraiment par sa verve, par sa fougue, par sa peinture noire, vivante, d'un phénomène qu'on connaît mal, mais qu'on va connaître de plus en plus, se dit-on quand on vous lit. Il s'agit des baby gangs, ces gangs composés de jeunes hommes de plus en plus jeunes, des quasi-enfants même, qui sévissent dans l'univers du crime organisé à Naples et on se dit sans doute bientôt ailleurs. Ce sont les héros de votre livre, c'est une bande de gamins emmenés par Nicolas alias Maharaja, il y a aussi Briato, Drone, Lollipop, Drago et bien d'autres encore qui vont peu à peu s'élever dans la hiérarchie du crime et s'atteler à la conquête de la ville. Le roman s'ouvre par une scène absolument dingue d'humiliation publique et je laisserai les auditeurs la découvrir, ça vaut le coup. Et la suite est à la hauteur, c'est violent, c'est poétique, c'est noir. Il y a un film qui est en cours, Roberto Saviano.
Si, abbiamo finito di girare
Piranha. Nous avons terminé
Piranha.
Le tournage de Piranha.
E l'abbiamo fatto a Napoli, ovviamente.
Il a été tourné à Naples.
Con tutti i ragazzini presi dai quartieri popolari.
Con tous ces jeunes, ces enfants qui ont été pris dans les quartiers populaires.
Per me ogni mio film che scrivo.
Et pour moi chaque film que j'écris.
E ogni serie TV.
Chaque série.
Sono veri e propri laboratori di lavoro, di scrittura.
Sono vraiment des laboratoires d'écriture.
Cioè parole che devono incontrare la carne dei loro interpreti.
Doivent rencontrer la chair.
Spesso infatti prendo attori da teatri off.
Souvent ce sont des acteurs qui proviennent des théâtres.
Da teatri off, oppure ragazzi che vengono esattamente dalle realtà di cui parlo.
Des jeunes qui sont originaires de la réalité dont je parle.
Alors, je voudrais juste qu'on vous entende sur le titre qui n'est pas le même en français qu'en italien. En français, donc, la référence est faite aux piranhas, donc ces poissons carnivores, petits, qui chassent en bande, qui sont très féroces. Alors qu'en italien, c'est, et pardonnez mon accent, la paranza dei bambini. Et c'est un terme qui fait référence aussi aux poissons, mais à la pêche, pas au même type de poisson. La paranza dei bambini, ça serait un peu la barque des enfants. C'est un côté arche de Noé infernale, enfantine, que vous avez voulu donner finalement à ce livre avec ce titre en italien.
Si, la paranza è una barca.
Oui. La paranza c'è un bateau.
Esce di notte.
C'è un bateau qui sort la
e
nuit.
Con l'inganno della luce tira su pesci.
E qui arrive à pêcher les poissons en le trompant par la lumière.
Nel gergo mafioso, paranza è un gruppo di persone che esce a pescare esseri umani da ammazzare.
È un gruppo di persone che sort per pescare des esseri umani che vogliono.
E in questo caso, piranha mi è sembrato. Non esistendo la parola paranza
piranha,
in altre lingue.
Étant donné che paranza ne peut pas être traduite.
Un'ottima traduzione. Perché.
Traduzione perfetta.
Questi ragazzini sono piccoli, feroci, carnivori.
Les enfants sont petits, féroces, carnivores.
Quindi rende bene.
Et donc cela rend bien l'idée.
Et j'ajoute qu'on fait de la friture hein, avec la paranza. Hein. Voilà. Il est beaucoup question de nourriture aussi dans ce livre, Roberto Saviano. Bonjour Thomas Reverdy.
Bonjour.
Alors Thomas B. Reverdy, vous étiez venu pour un livre écrit à quatre mains dans cette émission avec l'historien Sylvain Vénère, Jardin des colonies. On vous retrouve cette année avec L'hiver du mécontentement. L'hiver du mécontentement, c'est publié chez Flammarion. C'est un roman, c'est basé sur un hiver bien réel, car c'est ainsi l'hiver du mécontentement que The Sun, hein, le journal anglais, qualifia l'hiver 1978-1979 où d'énormes grèves paralysèrent l'Angleterre avant que celle-ci ne soit conquise, et j'utilise le mot conquise, par une certaine Margaret Thatcher. Et je dis conquise car l'hiver du mécontentement, c'est aussi une référence à Richard III de Shakespeare. Maintenant que l'hiver de notre mécontentement s'est changé en été glorieux par ce soleil d'York et toute la nuée pesant sur ma maison engloutie dans le sein profond de l'océan, voilà Richard III de Shakespeare. C'était l'histoire d'une conquête du pouvoir par un homme prêt à tout, assassinant frères, neveux, femmes. J'ai bien l'intention de prouver que je suis un méchant, disait-il, et je hais les plaisirs frivoles des jours actuels. L'ombre de Richard III plane sur votre livre et sur votre héroïne, Candice, coursière à vélo et actrice de théâtre qui va croiser Margaret Thatcher, venue prendre un cours de diction. Margaret Thatcher, qui sera nommée première ministre après les élections du 3 mai qui suivront cet hiver. Ajoutons à tout cela la musique de l'époque, le punk, la cold wave aussi, qui imprègne votre livre, des Sex Pistols à Joy Division, et on a votre roman. Alors je disais, Thomas Reverdy, c'est du Richard III, mais c'est aussi le titre d'un livre de Steinbeck, The Winter of Our Discontent. Piquer son titre à Steinbeck, vous ne manquez pas d'audace.
Ouais, alors j'aurais pas osé avec des souris et des hommes, hein, mais c'est...
Peut-être pour le prochain.
Mais l'hiver du mécontentement. Je l'emprunte surtout au journal Le Sun, en fait, hein, c'est parce que finalement, compris chez Shakespeare, quand Richard arrive sur le devant de la scène, il dit, comme vous l'avez rappelé, que l'hiver du mécontentement, c'est-à-dire la période de la guerre des roses, est passée, et que maintenant on est dans une espèce d'été douceâtre qui lui correspond plus du tout, et il va mettre un grand coup de pied dans cette fourmilière pour redevenir l'homme d'action qu'il a toujours été, quitte à devenir un monstre. Et c'est cet hiver de grève que le journal Le Sun appelle, en référence à Shakespeare plutôt qu'à Steinbeck, parce qu'on est à Londres, l'hiver du mécontentement. Mais dans un autre sens, dans le sens où l'hiver du mécontentement est en train d'arriver, là, est en train de venir, de gonfler, de paralyser petit à petit l'Angleterre.
Winter is coming.
Ouais, c'est ça, c'est hein, Winter is coming.
Comme d'autres disent. Ouais. Voilà. C'est pas la première fois que votre envie de livre provient d'autres livres. Je me souviens que pour votre livre sur Détroit, c'était un livre de photos. Il y a eu les discours de Thatcher aussi qui vous ont lancé commencé dans l'écriture.
Ouais, en fait, c'était le vrai point de départ. Hein. C'était de découvrir en librairie, tout à coup, la publication en français des discours de Thatcher, et en plus des discours qu'elle tenait au congrès du Parti conservateur. Donc, ces discours les plus hardcore, en quelque sorte, et les plus dogmatiques, en tout cas. Et on a publié ça il y a quelques années. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tout à coup, on republie des discours de Thatcher qui, moi, j'étais jeune, enfin, j'étais même un bébé en 79. Donc, moi, je l'ai découverte petit à petit au fil des années 80. Et pour moi, c'était la chanson de Renaud. C'était un repoussoir, ouais. Thatcher, en fait. Et tout à coup, je découvrais qu'aujourd'hui, en 2018, alors que j'avais grandi dans un monde civilisé, là, et ben, elle revenait sur le devant de la scène. On pouvait de nouveau la citer dans une campagne électorale pour le présidentiel, là. Et on pouvait publier ses discours. Et je me suis dit, mais quelle période est-ce qu'on vit là? Donc, je me suis plongé, en fait, dans les discours de Thatcher, dans sa biographie, son autobiographie. J'ai cherché à savoir qui c'était. Et je suis tombé sur cette arrivée au pouvoir incroyablement moderne qui dessine un peu les contours de notre monde et de la politique actuelle et de la façon de la faire. Et puis cette année 79, qui alors du coup, quand on tombe après sur effectivement l'hiver du mécontentement, hop, ça résonne, Shakespeare, et tout de suite on a...
Bon, il y a le punk.
Voilà, il y a plus qu'à tirer les fils parce qu'en fait, ça y est, je suis dans un univers où ça commence à s'agencer, quoi.
Ça se passe comme ça aussi pour vous, Roberto Saviano, des livres qui vous donnent envie d'écrire les vôtres.
Absolument, si.
Oui, absolument, oui.
Alors lesquels? Pour Piranha.
In realtà, per esempio, ci sono libri che mi danno lo stile, la voglia di
qui m'inspire un certain style,
usare quei suoni, quei ritmi,
qui me donne envie d'utiliser certains mots, un certain rythme,
trovassi un nuovo strumento,
un peu come se je retrouvais
un nuovo modo di suonare,
un strumento.
C'è uno scrittore francese,
de
per
jouer.
Esempio,
Blaise Cendra,
che mi piace da pazzi,
che j'adore,
ogni volta che lo leggo in traduzione,
a chaque fois que je le lis, traduit,
mi piace indossare il suo ritmo,
je l'adore et j'aime bien porter son rythme.
Poi ci sono invece, per esempio, altri autori,
ensuite, il y a d'autres auteurs,
che mi aiutano a sopportare,
qui m'aide à
quello che
devi supporter,
insomma, subire per entrare dentro la materia delle cose.
Afin de rentrer dans la matière des choses.
Par exemple, Varlam Shalamov.
Shalamov, oui. Donc Cendra, Shalamov.
Oui. Sì, che adoro,
che j'adore.
Ouais. Sì.
Malaparte aussi, vous.
Malaparte, voilà. Moltissimo. Ouais. Malaparte della pelle.
Bien sûr, de la peau.
Camus, Pasolini. Insomma, un'orchestra di amici.
Tutta un'orchestra d'amis.
Alors oui, c'est drôle parce que vous parlez souvent de Malaparte. C'est vrai que vous venez de mentionner Pasolini. Ils sont où les écrivains italiens, justement, les disciples de Pasolini? En dehors de vous, au fond, on les entend pas tellement protester contre le sort qui vous est fait, contre les menaces de Salvini. Alors vous le cherchez, hein, mais... Vous avez peut-être raison, en tout cas vous le faites, mais les Italiens, les écrivains semblent assez muets en Italie. Qu'est-ce qui se passe là? La tradition est cassée de l'écrivain engagé?
Si è spenta questa tradizione.
Oui, cette tradition s'est éteinte.
Chi continua c'è, ma ha una voce molto labile.
Il y en a, certains existent, mais leur voix est très faible. Ils pensent qu'il suffit d'écrire un
mezzo
petit
articolo.
Post. Un petit
ma questo succedeva vent'anni fa.
Ma finalmente.
Vent'anni fa poteva succedere che.
Il y a 20 ans.
Che prendevano una posizione con un articolo e questo era sufficiente.
Prendere posizione avec un articolo e cela pouvait suffire.
Oggi, se tu prendi una posizione,
tandis
deve essere quotidiana.
Aujourd'hui, si on veut prendre
veramente una battaglia continua.
Position, eh bien, il faut que
perché la quantità di informazioni è enorme.
Quotidien, perché
la
quantità di informazioni è enorme.
Assolutamente sì. E quindi il social allo scrittore
en
dà
fait,
la sensazione
social,
che se fa un post, sta prendendo posizione.
Finalement, il suffit d'écrire un poste
invece,
pour prendre position.
L'ingaggio è fondamentale
alors
in questo momento.
L'engagement est fondamentale.
E agli scrittori italiani sta dando molto fastidio questo.
E cela dérange énormément les écrivains italiens parce qu'ils ont peur de perdre des lecteurs.
Il pubblico alle librerie.
Ils ont peur de perdre leur public
avere
dans les librairies.
Avere tantissima merda sui loro social.
Ils ont peur des attaques dans leurs réseaux sociaux.
Allora il gioco è semplice, faccio un post dove prendo posizione
donc,
le poi
jeu devient très simple, je publie un post et puis je me cache.
Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. On vous a réunis parce que chez tous les deux, chez vous deux, il y a une grande fibre sociale qui s'exprime à travers vos romans, qui produit une fibre sociale, qui produit des livres, une grande précision aussi sur l'effet économique que vous décrivez, un certain engagement aussi. Thomas Reverdy, pourquoi un roman ? Déjà, sur cette idée d'engagement de l'écrivain, c'est une idée à laquelle vous souscrivez, parce qu'au fond, on pourrait dire que vous vous engagez, même si c'est sur une période du passé, peut-être paradoxalement, ou peut-être que c'est pour mieux parler de l'époque actuelle.
Bien sûr. Alors, effectivement, il y a des échos par le simple fait qu'on l'écrit aujourd'hui. C'est évident que ça produit tout de suite une résonance avec ce qu'on vit, nous. Et puis, après tout, Thatcher, ce qu'elle lance avec la dérégulation, la financiarisation, elle transforme la City en la plus grande place financière du monde. Et en fait, elle nous lance dans le monde qu'on subit aujourd'hui très souvent et dont on a tout lieu de se plaindre. Donc, effectivement, il y a un engagement par le simple fait de décrire le mécanisme qui nous a conduits là. Et du coup, comme on le voit de façon...
Pour d'autres, elle est une héroïne, hein, aussi, justement.
Ouais, alors sans doute...
En permettant libéralisation plus grande de l'économie.
Ouais, mais quand vous êtes écrivain, vous êtes obligé de vous intéresser aux gens. Enfin, parce qu'il faut faire exister des personnages. Et à partir du moment où vous faites exister des personnages en leur donnant chair, en leur faisant vivre des situations, en les mettant en famille, avec leurs amis, avec leurs amants, du coup, c'est forcément des... Enfin, c'est des gens normaux, j'allais dire. Donc c'est plutôt ceux qui sont du mauvais côté de cette machine à broyer.
Donc le terme d'engager, parce que c'est vrai que parfois en France, parce qu'on en a eu tellement grand, on n'ose pas, ou on trouve ça peut-être un peu cliché, vous revendiquez ce terme-là, l'écrivain, il est aussi là pour s'engager d'une certaine manière par sa fiction.
Ouais, je pense, bien sûr, mais alors sans doute d'une façon particulière, parce que moi j'ai toujours pratiqué la fiction, et je pense qu'il y a dans cette manière de tisser le réel avec la fiction, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'un engagement profond. Parce que, par exemple là, dans le fait que Candice, mon personnage, répète Richard III avec des copines, elle va jouer elle-même le personnage de Richard, et du coup ça la fait réfléchir au lien de pouvoir, de séduction, de monstruosité, de cruauté, etc. Et en fait, le fait que Shakespeare arrive encore à informer sa réalité à elle, ou la nôtre, c'est la preuve que la fiction, quand elle se tisse avec la réalité, quand on trouve le moyen de, voilà, les bonnes cordes à faire vibrer pour que ça résonne, eh ben, en fait, la fiction, elle ébranle la réalité, elle rentre dans notre paysage. Et de la même manière que la réalité rentre dans la fiction. Et ce tissage, cet entremêlement des choses, il est de l'ordre de l'engagement, parce que du coup, il veut dire que la fiction est là pour modifier le monde. Elle est pas là juste pour faire joli sur une étagère.
Vous êtes d'accord, Roberto Saviano? Parce qu'évidemment, là, on parle de Richard III, mais... Moi, je pense, quand je vous lis, quand je lis Piranha, je pense à Hamlet et je pense à peut-être la citation la plus connue de Shakespeare. Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark. Alors, c'est pas le royaume du Danemark exactement. Il y fait un petit peu plus chaud quand on est à Naples. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume que vous décidez de faire ce livre? Et de choisir d'ailleurs la fiction, quoi. C'est la première fois.
J'ai choisi ce chemin, non en contradiction avec les précédents livres.
Pas parce que j'ai de manière contradictoire par rapport
prima
à mes livres
romanzi
précédents.
Non-fiction.
Avant, j'écrivais des romans qui n'étaient pas fiction.
Et oggi invece decido di usare la fiction.
J'utilise
la
fiction.
Mi ispiro a fatti assolutamente
mais finalement, je m'inspire toujours des faits très
quindi
réels.
Quindi sono dentro il realismo.
Et donc, je suis profondément dans le
réalisme. La fiction mi ha permesso di entrare dentro i personaggi.
Permis de rentrer à l'intérieur des personnages, de raconter leurs émotions,
difendere i loro nomi reali,
de défendre aussi leurs noms réels, il s'agit des
mentre
mineurs.
Se avessi usato la non-fiction, dovevo fermarmi.
Alors que si je n'écrivais pas
al
de la fiction,
della loro carne,
j'aurais dû m'arrêter au périmètre
usare
de
solo
leur chair.
Le informazioni giudiziarie su di loro,
uniquement les informations
o qualche
informazione
sur eux, della
ou
famiglia
bien
su di loro.
Des informations que j'aurais pu
e invece
avoir
ho
par
voluto
leur famille.
Utilizzare tutto.
Et alors
queste
que moi,
informazioni, quelle
tout
di cronaca,
c'est-à-dire les informations,
ma anche tutte le sensazioni
divers,
che avevo provato
toutes les sensations que j'ai pu ressentir en les rencontrant, en les observant.
Thomas Reverdy, oui.
Oui, moi ça m'a frappé, si je peux me permettre.
Je vous en prie, vous êtes là pour ça.
De questionner un peu Roberto aussi. Au début du livre, on a cet avertissement qui nous dit que les personnages et les faits sont imaginaires, mais le milieu et la réalité sociale qui les ont produits sont authentiques. Et donc effectivement, au début, on les suit comme ça, en ayant l'impression de un peu de quelque chose de documentaire. On apprend des choses. Par exemple, on apprend des mots, paranza et tout ça. Et puis, à la deuxième partie, à l'ouverture, on passe à autre chose, là, tout à coup. Il y a ceux qui baisent et ceux qui se font baiser. C'est tout. C'est comme ça, partout, depuis toujours. Et là, en fait, on bascule dans ce qu'on appelait la tragédie. C'est-à-dire, justement, c'est plus le milieu social, là, qui produit ça. C'est une espèce de volonté profonde et humaine de prendre sa place.
Si, grazie. Et proprio oui, un'analisi corretta.
En fait, son analyse est vraiment
perché
juste.
Ho tentato di fare questo,
parce
cioè
que j'ai essayé
far
de
passare
faire cela.
Il racconto di una periferia italiana, anche se nel cuore di Napoli,
conto
questa storia.
D'une périphérie de Naples.
Come un modello universale.
Come un modèle universel.
Non racconto Napoli al mondo, ma il mondo attraverso Napoli.
Je ne raconte pas Naples au monde, mais le monde en passant par Naples.
Et quindi la vita
et donc,
fondata su fottuti e fottitudini.
La vie qui est basée sur les baiseurs et les baisers.
Et in realtà una dinamica in cui tutti gli esseri umani possono riconoscersi, perché questo è il maledetto mondo in cui viviamo.
Finalement, cela è le monde maudit dans lequel nous vivons.
E questi ragazzini si ribellano in qualche modo anche a questo.
Enfants se révoltent contre ce monde.
Non si ribellano cambiando il sistema.
Ils ne se révoltent pas en essayant de
changer
le système. Ma volendone
diventare quelli che mangiano,
ils veulent
quelli che
devenir ceux qui
credono
commandent.
Di essere i fottitori,
ils
invece sono i fottuti.
D'être les baiseurs, mais en réalité, ce sont les baisers.
Puis c'est vrai depuis Ulysse, depuis l'Odyssée. Hein. Les baiseurs et les baisers, depuis le cheval de Troie, finalement, rien n'a changé, Roberto Saviano.
Non è cambiato nulla.
En fait, oui, rien n'a changé.
On poursuit avec vous, Roberto Saviano, Thomas Reverdy. D'abord, on écoute votre choix musical. Alors, celui de Roberto Saviano, vous avez choisi PNL, groupe français, Le Monde ou Rien. Pourquoi ce choix musical?
Sì, sono secondo me veri e propri poeti.
Parce que, à mon avis, ce sont vraiment des poètes du ghetto.
Qui in questo brano mi è particolarmente
morceau,
caro perché il loro video
è particolarmente
girato a Napoli
parce que ils ont tourné cette vidéo à Naples.
Ed è la dimostrazione che i gruppi rapper sanno bene,
le groupe de rap
più dei giornalisti spesso, che la periferia
parfois,
è una.
Que les journalistes, que
è una.
La periferia
da Parigi
est
a Napoli fino a Manila è
de
una
Paris
sola la periferia.
À Naples jusqu'à Manille,
sempre con la
il
stessa
s'agit
grammatica.
Toujours de la même périphérie, toujours avec le même drame.
On écoute PNL, Le Monde ou Rien.
Le temps des écrivains, Christophe Onodibio.
Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour dézapper Tarakli. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bombay, je fais big grave dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Yankee voter blanc. Onga, 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 ouais. Mon gars, je sers du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balivern. Je veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô, non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC, en LV totalement pété. J'rentre coke dans les poches, quand petit frère pas à l'école. J'suis dans ma pull. Pull, oh shit, le shit, le shit, le shit, pull, sans sur le pull, sans sur le pull, pull, oh la la, oh la la, dégage ton boule, dégage ton boule, boule, oh shit, ton mal, mon bien, ouais, 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 pour les miens, ouais, 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 le monde ou rien,
PNL, Le Monde ou Rien, c'est le choix de Roberto Saviano qui publie Piranha, c'est chez Gallimard, il est en compagnie de Thomas Reverdy, L'hiver du mécontentement chez Flammarion. Là, les paroles, vous ne comprenez pas, Roberto Saviano?
Non, j'ai dû chercher online la traduction.
J'ai dû essayer de trouver la traduction sur
Internet. Mi piacciono le lingue autentiche.
Mais j'aime bien le langage authentique.
Infatti, io scrivo molto in napoletano.
D'ailleurs, j'écris beaucoup en napolitain.
Ci sono cose che solo la lingua della carne
può dire. Il y a des choses que seulement la langue de la chair peut exprimer.
Ça fait trois fois que vous dites le mot chair en parlant d'écriture.
Sì, perché quando scrivo non scrivo
oui,
con
parce que,
le dita.
Quand j'écris, je n'écris pas avec mes doigts.
La testa arriva soltanto dopo.
La tête arrive toujours après.
La prima cosa che
et
sento
la première chose
insomma,
que je sens est dans mon
è dans
mon
sangue,
sang,
nella pancia.
Dans mon ventre.
Quindi non so se questo
et
sia
donc,
qualcosa che mi aiuta o
si
aiuta la mia scrittura.
Chose qui m'aide et qui aide mon
ma quello
écriture,
che scrivo è proprio
mais
budella,
en tout cas,
carne.
Ce que j'écris vient de mes tripes, de ma chair.
Je vais vous lire un extrait de Piranha, qui s'appelle donc en italien La Paranza dei Bambini, la barque des bambins, des enfants. Le mot Paranza vient de la mer. Lorsqu'on a vu le jour sur la côte, on connaît plus d'une mer. On s'est pris par elle, baigné, envahi, subjugué par elle. On peut passer toute sa vie ailleurs, elle continue à vous imprégner. Lorsqu'on a vu le jour sur la côte, on sait qu'il y a la mer du travail, la mer des départs et des retours, la mer dans laquelle se déversent les égouts, la mer qui isole, le cloaque, l'issue de secours, la mer barrière infranchissable. Il y a la mer, la nuit. La nuit, on sort pêcher, dans un noir d'encre. Des blasphèmes et aucune prière. Le silence, rien que le bruit du moteur. Petit et vermoulu, deux bateaux s'éloignent, si pleins que le poids de leurs phares suffirait à les faire couler. L'un se dirige vers la droite, l'autre vers la gauche. Les phares avant qui servent pour attirer les poissons. Les phares, lumières aveuglantes, électricité salée. Des éclats violents qui transpercent l'eau sous la moindre grâce et parviennent tout au fond. Ils effraient. Les fonds marins, c'est comme voir où tout s'achève. N'y a-t-il que cela? Ce mélange de pierre et de sable qui recouvre l'immensité, rien de plus. Alors ça, c'est le prologue, Roberto Saviano de Piranha. Et on arrive, j'ai dit à l'auditeur de France Culture et l'auditrice que je ne le dirai pas, mais j'en dis un petit mot. Premier chapitre s'ouvre avec une rupture de ton totale, ça s'appelle « Mange-merde ». Et ça commence comme ça. « Qu'est-ce que t'as à me regarder ? C'est bon, je te calcule pas. Alors pourquoi tu me mates ? Oh mon frère, tu te trompes de bonhomme ! J'en ai rien à foutre, moi. » Et là, il y a une scène absolument dingue d'humiliation entre un pauvre garçon qui a liké des photos de la copine de l'autre sur Facebook et qui se retrouve pris en tenaille par une paranza, donc un groupe de gamins. Piranha, c'est l'histoire de ces baby gangs qui prolifèrent à Naples, mais dont vous nous dites qu'ils prolifèrent dans le monde entier. Et vous connaissez bien, Roberto Saviano, la criminalité du monde entier, parce que je rappelle que vous êtes en dehors de Gomorra, l'auteur de Extra Pur, qui s'intéressait au commerce global de la cocaïne. Et ces baby gangs s'incarnent, on parlait de Cher tout à l'heure avec vous, à travers une bande de gamins emmenés par Nicolas, alias Maharaja, entouré de Briato, Drone, Lollipop, Drago, Biscottino, Je veux dire, il y en a un qui s'appelle Je veux dire, et bien d'autres encore, qui vont peu à peu, à leur tout jeune âge, s'élever dans la hiérarchie du crime, à Naples, et s'atteler à la conquête de la ville. Alors je le disais, vous vous attelez à peindre un problème relativement nouveau dans ce livre, ces baby gangs, ces gangs d'enfants. Je voudrais vous interroger sur la genèse de ce livre, parce que j'ai lu, quelque part, qu'au fond, ce livre, il était né quand vous avez été emmené au poste pour être protégé. C'était après les menaces que vous avez reçues. Et vous êtes aperçu qu'en fait, les criminels étaient de plus en plus jeunes.
Si.
C'est là qu'est né Piranha.
Oui, oui, c'est tout à fait vrai.
Io, ormai sono 11 anni che vivo tra caserne.
Depuis 11 ans, moi, je vis entre des casernes et des habitations, des maisons plus ou moins clandestines.
E vedevo, per esempio, quando andavo a incontrare magistrati,
quand j'allais rencontrer des magistrats,
ufficiali dei carabinieri,
chez les carabinieri, dans les commissariats,
gli arresti erano sempre su ragazzi più piccoli,
personnes arrêtées étaient de plus en plus jeunes.
E avevano questi ragazzini dei ruoli sempre più alti nella gerarchia criminale.
Tenaient des rôles de plus en plus élevés dans la hiérarchie criminelle.
E questo non era mai successo prima.
C'est quelque chose de nouveau.
Le mafie, anche i sudamericani, hanno sempre avuto giovanissimi bambini delle organizzazioni, ma mai ai vertici.
Des enfants dans leur organisation, mais jamais dans les sommets.
Intuivo che questi stavano comandando.
Et donc j'ai eu cette intuition que ces jeunes, que ces enfants étaient en train de commander.
Forse l'ultima organizzazione che ancora crede nei giovani in Europa.
C'est peut-être la dernière organisation qui croit dans les jeunes en Europe. Ce sont les mafias.
C'est terrible ce que vous dites. Dans un monde de vieux, il reste la mafia.
Sì, le mafie puntano sui giovani. Le mafia, anche perché
la mafia
sanno
mise sur les jeunes.
In qualsiasi altro ambito economico.
Parce qu'ils savent
economico che politico.
Dans tout autre
l'errore
monde
è tollerato.
Politique, economico.
Se sbagli in qualche modo puoi andare avanti. Nelle mafie se sbagli muori.
On peut tolérer l'erreur. Alors que dans la mafia, si tu te trompes, tu meurs.
Alors, certains des dialogues vous ont d'ailleurs été inspirés par la police. J'en cite un, puisqu'en fait, ils étaient mis sur écoute et vous avez bénéficié de ces sources-là. J'en cite un parce qu'ils boivent du champagne, en fait, ces jeunes. On pourrait croire qu'ils boivent... Non, ils aiment le champagne. Pourquoi ils aiment le champagne? Car métaphoriquement, le champagne correspond à ce qu'ils sont eux-mêmes. Vous savez pourquoi j'aime le champagne? Quand on a fait sauter le bouchon, on ne peut plus le remettre. Nous, on est pareil. Plus personne ne peut nous arrêter. On doit faire gicler toute notre mousse. Il a projeté le bouchon contre un mur, le bouchon a rebondi et disparu à jamais sous un canapé. T'as vu, Dentino? Quand notre bouchon a sauté, on ne peut plus le remettre. Sur ces dialogues, quelle était la source alors, ces écoutes de police? On peut les trouver? On vous les a données? Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a plein de scènes extrêmement... Enfin, c'est génial, quoi, les dialogues... percutant.
Io sempre tutto il mio dialogato lo prendo dalle intercettazioni telefoniche.
Je les prends toujours par ces dialogues sous écoute
di polizia
che j'ai pas.
Oppure anche intercettazioni ambientali
police,
di polizia. Che sono dei chimici che vengono messi sotto i tavoli.
C'est-à-dire lorsque la police met des puces sulle table.
Poi lì ovviamente li trasformo, li rendo
dialogue.
Più
après,
veloci in alcuni casi.
Après, je reprends ces dialogues et je les transforme. Più comprensibili. Par exemple, je les rends plus rapides, je les rends
in molti casi anche le interviste.
Comprensibles.
Le interviste. Et in questo caso, per esempio, sullo champagne, sono decine di ragazzini che mi raccontano
concernant
sempre la
le champagne,
cosa.
Eh bien, il y a des dizaines d'enfants qui parlent toujours de la même chose.
Noi siamo il Moët Chandon, dicono sempre
questo.
Ils disent
toujours, nous sommes le Moët Chandon.
Sì, anche a Napoli si chiama Moetta.
Parce qu'en napolitain, nous disons Moetta.
Perché se tu apri lo champagne,
fait, si
non lo puoi più chiudere.
Une bouteille de champagne, tu ne peux
mentre
plus la refermer.
Donc ça revient comme un motif littéraire, finalement, dans ces écoutes de police, le champagne revient tout le temps.
Sì. Perché le mafie, poi, insomma, il mondo criminale
oui,
o il mondo di periferia ha bisogno di simboli.
Le monde des banlieues
ha bisogno di
simboli.
Perché è il metodo più veloce e istantaneo per identificarsi.
La méthode plus rapide pour pouvoir s'identifier.
Alors, il y a une autre source romanesque, un matériau romanesque extrêmement intéressant que vous utilisez, vous en parlez énormément, c'est tout ce qui est réseaux sociaux. Alors, tout à l'heure, on parlait d'Ulysse, de l'Odyssée, du cheval de Troie, les baiseurs et les baisers. Là, en fait, vous ne cessez de parler, enfin, vos personnages, de Facebook, d'Instagram, de WhatsApp, et vous reproduisez leurs messages, notamment sur WhatsApp, la façon dont ils se donnent rendez-vous pour monter un coup, par exemple. Et ces réseaux sociaux, on s'aperçoit qu'ils sont à la fois les ressorts du romanesque, puisqu'au fond, ça commence parce que l'un des personnages a donc liké une photo, ce qui a énervé l'autre. Et non seulement c'est un ressort romanesque, mais c'est même pour vous un matériau extrêmement intéressant, parce qu'on a l'impression que c'est que les réseaux sociaux sont devenus, dans cette périphérie que vous décrivez, les nouveaux véhicules de l'épopée. C'est-à-dire qu'avant, celui qui véhiculait l'épopée, c'était la haide, c'était le poète. Aujourd'hui, c'est la Silicon Valley qui se retrouve à être la haide de cette épopée. Et je voudrais savoir pourquoi c'était si important pour vous de travailler sur ce qu'on pourrait appeler ce romanesque digital, ou cette dimension digitale du romanesque.
Perché È impossibile prescindere anche que, per uno scrittore voglia raccontare la realtà.
Si nous voulons raconter la réalité,
come tutto modificato dalla percezione, dalla velocità dei social.
Comment tout est modifié par la rapidité des réseaux sociaux.
Faccio un esempio, loro per esempio, questi ragazzini loro comunicano sui social, sapendo che danno prova alla polizia.
Ces enfants communiquent sur les réseaux sociaux en sachant que cela peut être vu par la police.
Ma preferiscono dare elementi di prova alla polizia
ces éléments
piuttosto
alla
che non esistere sui social.
Plutôt que ne pas exister
non
sur
esistere
les réseaux
sui social
sociaux.
Significa non essere
parce
desiderabile
ne pas être,
dalle ragazze.
Ne pas exister sous les réseaux
non
sociaux veut dire ne pas être
dérisé,
désiré par les filles, ne pas partager ce
ma,
que
ma andando anche oltre, tutto il mondo per esempio
donc,
di Daesh, di ISIS,
et d'ailleurs,
si è ispirato
tout le
proprio
monde
ai narcotrafficanti.
De Daesh s'est inspiré par les narcotrafiquants.
I narcotrafficanti messicani,
et
per esempio,
narcotrafiquants
avevano proprio un codice
mexicain,
per cui ammazzavano intorno alle 5 di 6 di pomeriggio.
En fait, il tuait vers 17h.
Per finire al telegiornale delle 8 come prima notizia.
Pour que la nouvelle passe au journal de 20h.
Mentre invece se ammazzi la mattina,
alors que si tu tues le
il rischio
matin,
è che il telegiornale più visto non riporti la notizia
bene. Le journal qui est le plus regardé ne va pas
allora,
trasmettre la nouvelle.
A un certo punto hanno smontato questo meccanismo
donc,
e hanno iniziato a postare
ont,
su YouTube
ensuite,
le decapitazioni che attiravano
après,
ancora più attenzione.
Mis su YouTube
tutto
le decapitazioni
per la comunicazione.
De personne, ce Daesh. Donc tout est misé vers la communication.
Et dans un roman, effectivement, ce rythme-là, cette importance de la communication, il fallait absolument en tenir compte aussi dans votre histoire, dans l'histoire que vous racontez.
Oggi le persone parlano su WhatsApp.
Bien sûr, aujourd'hui les personnes
più
parlent
che con la propria
à travers
voce,
WhatsApp, beaucoup plus.
Quindi i dialoghi devono cambiare.
À travers leur voix, et donc les dialogues dans les romans doivent changer aussi.
Est-ce que le fait d'avoir justement choisi le roman, hein, on en parlait tout à l'heure, par rapport à Gomorra, même si Gomorra parfois, par certains, a été qualifié de roman, d'ailleurs il était chez Mondadori dans une collection un petit peu expérimentale, mêlant justement le roman à la non-fiction. Mais est-ce que le fait d'avoir choisi le roman, c'est pour vous aussi une façon de réfléchir sur ce qu'on appelait dans la tradition littéraire le roman de formation, le roman d'apprentissage? Le roman qui raconte comment, depuis le Moyen-Âge, comment un jeune garçon va devenir un adulte et comment ça va se passer. Est-ce que pour vous, c'est aussi un moyen de montrer que ce roman d'apprentissage aujourd'hui, ben, il est forcément pas le même qu'au 19e ou au 20e siècle, à cause justement du digital, du crime?
Ben, en réalité, je crois que c'est une continuité.
Oui, en effet, je pense qu'il y a une sorte de continuité.
Per esempio, il mondo criminale diventa
le
per me un mondo epico.
Par exemple, pour moi,
e non solo
un
per
mondo
me,
épique,
perché è ancora un mondo in cui
moi,
si muore.
Parce que c'est un monde où l'on meurt encore.
Si uccide,
c'est
si gioca la vita.
Un mondo où l'on tue, où on met sa vie en
mondo,
jeu.
Il mondo, quello occidentale, dove la guerra
et
è lontana,
dans
apparentemente.
Dans un mondo, le monde occidental, où la guerre
è lontana,
lointaine.
Dove, per esempio, gli stessi ragazzini che io intervisto,
et par
li conosco, io stesso sono cresciuto
les
così.
Les enfants que je connais,
dicendo,
que je rencontre,
dicendo,
et moi-même,
j'étais
un enfant.
Questa frase alle persone che
sorte,
ci sembrano deboli.
La nous frase che disons diciamo, toujours aux personnes qui nous paraissent faibles.
Diciamo,
nous leur disons,
quella persona t'en a paura e morì, ha paura di morire.
Cette personne a peur de mourir.
È ovvio che è una paura di morire. Ma
c'est normal
quando nasci in ambienti
peur
dove,
de mourir.
Dove
mais
la tua morte
on est dans un milieu
è un elemento di forza la tua vita,
mort
non qualcosa
è chose
che devi,
qui
devi evitare.
Forza ta vie. Ce n'est pas quelque chose qu'il
questo
faut éviter.
Sai,
eh bien, cela, ce passage crée le conte épique.
Teodoro Adorno, per esempio, dice
Adorno,
io temo che con la nascita delle pistole, della polvere da sparo, non avremo mai più l'Iliade. Si sbagliava in realtà.
Però comprendo,
comprendo che l'epica può nascere solo se c'è.
Mais en
il
même temps, le
tutto.
Conte épique ne peut exister que si l'on risque le tout pour tout.
Il y a cette très belle phrase de Novalis qui ouvre le livre. Où est l'enfance est l'âge d'or. C'est totalement ironique alors.
Si.
Ouais. Perché, vous êtes terrible.
Si, parce que Novalis parlait...
Oui, parce que
dove ci sono i bambini c'è l'età dell'oro, no?
Parlait de cet âge d'or où il y avait les enfants.
Io lo uso invece per dire
alors
che questi bambini
j'utilise cette phrase davvero pour trovano dire l'oro, ma nella coca, ces enfants trouvent réellement l'or,
nelle estorsioni,
dans la cocaïne,
nelle estorsioni che mantengono i loro genitori così.
Braquage qui entretiennent de cette manière leurs
quindi,
parents,
l'età
leur
dell'oro
famille.
Che questi bambini alors, costruiscono,
cet âge de l'or que ces enfants
l'età del saccheggio,
bâtissent en fait, come, c'est l'or du pillage, c'est l'âge du pillage.
L'unica strada che hanno
et
per
en fait, c'est la seule voie qu'ils ont devant eux pour pouvoir se réaliser en très peu de temps et puis disparaître.
Alors il y a quelque chose qui va beaucoup plaire à Thomas Reverdy, parce qu'il y a cette dimension-là dans vos deux livres, c'est la dimension théâtrale en fait. Ce livre se passe, Roberto Saviano, à Naples, Naples qui est vraiment décrite comme une scène de théâtre. Je lis un passage. « Forcella, c'est de la matière à court d'histoire, de la matière vivante, de la chair. Le sens de ce nom est là, dans le pli des ruelles qui le sillonne tel un visage battu par les vents. Forcella, la fourche, deux branches. » On sait d'où on vient, mais pas où on arrive, ni même si on y arrive. Une route symbole de mort et de résurrection qui vous accueille avec un immense portrait de San Gennaro, peint sur un mur, vous observant dans la façade d'une maison tandis que vous entrez. Ses yeux qui comprennent tout vous rappellent qu'il n'est jamais trop tard pour se relever après la chute et que, comme la lave, on peut arrêter la destruction. Puis il y a cette boîte de nuit, le Nuovo Maharaja, posé au-dessus de la mer, sur le Posilip aussi, comme aussi un théâtre où on se montre, où il faut montrer qu'on a réussi. D'autres expressions encore. Hein. Au moment du procès qui oppose Don Vittorio à Faella, je vous cite, la salle était partagée en deux moitiés égales, devant les acteurs et derrière les spectateurs. Ce n'était pas la meilleure position au théâtre, ça aurait été des places bon marché. Mais de là, ils pouvaient tout voir. Au début, c'était des ombres chinoises, de simples taches informes. Puis la lumière changeait d'intensité et la vue s'affinait. Tout prenait un sens jusqu'au moindre détail. Tout le monde admirait la scène. Je voulais vous demander si c'est une manière de souligner le caractère théâtral de la vie en général ou si vous vouliez insister sur cet aspect théâtral des milieux mafieux. Par exemple, il y a Don Feliciano. Lui, il veut mourir, mais s'il se fait arrêter, il faut qu'il porte une tenue impeccable, parce que tout le monde va le regarder, donc il faut qu'il soit beau le jour où on l'arrête. Alors est-ce que c'est simplement le théâtre de la vie, le théâtre du monde, comme on disait à l'époque aussi de Shakespeare, ou si c'est le théâtre mafieux qui est une exacerbation de ce théâtre de la vie ?
La théâtralité est tout.
La théâtralisation est tout dans ma terre.
L'ho imparato da bambino.
En fait, c'est quelque chose que j'ai appris enfant.
Io riuscivo a capire quando... Moi, je... Una persona ammazzata era un camorrista o un innocente.
Si la persona che è stata tuée était un mafieux, camorrista, un mafieux o un innocent.
E lo capivo perché.
E je pouvais le comprendre.
Quando ammazzavano un camorrista.
Parce que lorsque tuait un
la famiglia
camorrista,
arrivava sul
mafieux,
cadavere.
La famiglia arrivait.
Si strappava i capelli.
Cadavre e commençait à s'arracher les cheveux.
Insultava.
Gli assassini.
Piangeva, urlava.
Il pleurait.
Sveniva.
Criait, il
s'evanouissait. Si riprendevano e risvenivano.
Il se reprenait e s'evanouissait à nouveau.
Cercavano di sporcarsi col sangue.
Essayer de se salir avec le sang de la victime, l'embrasser.
La tragédie,
exactement.
Muore una
tandis
persona
que
non niente,
lorsque mourait un innocent,
mi è successo diverse volte di vederlo.
Je l'ai vu plusieurs fois.
Ricordo un
je
povero
me souviens,
ragazzo che si chiamava Attilio Romano.
D'un pauvre jeune qui s'appelait Attilio Romano.
E anche un altro ragazzo si chiamava Dario Scherillo.
Dario Scherillo, de jeunes qui n'avaient rien à voir. Et
quand sont arrivati
dans tout ça,
nel caso di Attilio, la moglie,
je me souviens lorsque Attilio, dans le cas d'Attilio, est arrivé sa femme,
nel caso di Dario, il fratello,
qui venait de se marier.
Non sapevano come reagire.
Et pour l'autre, c'était les frères qui étaient venus sur le cadavre. Ils ne savaient pas comment réagir. Ils étaient silencieux. Ils pensaient même que c'était presque une blague. Ils étaient pâles.
Poi il fratello di Dario iniziò a saltare.
Le frère de Dario, je me souviens, aveva questa tensione. A sauter parce qu'il est tellement il était tendu.
Il teatro non mente. Fare teatro non significa mentire, ma significa entrare in un codice.
Faire du théâtre, ça ne veut pas dire mentir, mais cela veut dire rentrer dans un code.
Vous êtes d'accord, Thomas Reverdier, parce qu'évidemment le théâtre, il est omniprésent dans votre hiver du mécontentement, qui est d'ailleurs aussi un roman d'apprentissage, mais sauf que c'est une jeune femme et pas un jeune homme.
Oui, bien sûr. Le théâtre, il est alors il est omniprésent parce qu'elle, elle est dedans. Elle veut prendre sa place grâce au théâtre. Elle a le soutien pour traverser cette époque où tout change du texte. Elle a le soutien du rôle de Shakespeare, de Richard III, qu'il va falloir incarner, et ça la porte. Ça la porte sur scène, ça la porte face à Thatcher, ça la porte aussi dans ses relations avec les gens autour d'elle, parce que ça lui permet de réfléchir à tous ces problèmes de relations de pouvoir entre les personnages de la pièce et qui sont sans doute les mêmes dans la vie. Et Richard III, c'est une pièce magnifique pour ça, parce qu'elle est très, comment dire, le personnage est très ambigu. Et donc, il est à la fois le tyran monstrueux, c'est la tragédie sur le pouvoir vraiment de Shakespeare.
L'homme contrefait, enfin le bossu.
Voilà, ouais. Et en même temps, parce qu'il est contrefait, parce qu'il arrive, il est bossu, il dit que, enfin, tout le monde l'a rejeté tout le temps. Et là, on essaye encore de l'écarter du trône. Finalement, c'est aussi, d'une certaine manière, le paria. Et donc, le punk, en 79, en tout cas.
Voilà, ce que je rappelle, on est dans votre livre, donc en plein hiver 78-79, donc le journal Le Sun. Elle avait appelé l'hiver du mécontentement en référence justement à Shakespeare, Richard III. C'est une des phrases importantes de la pièce. Et donc c'est les débuts du punk aussi et de la Cold Wave. C'est les Pistols, c'est Joy Division. Et puis c'est la prise de pouvoir de Thatcher. Et il y a une phrase que je voudrais dire parce que ça va faire plaisir d'ailleurs à Roberto Saviano qui est en face de vous. Un passage en fait de chez vous, Thomas Reverdy. Il est question de théâtre. Beaucoup de gens ont joué Richard en accentuant la gravité de ses calculs machiavéliques. Nous, on fait le contraire. On joue la conquête du pouvoir sur le ton du bouffon. Pour Richard le premier, tout cela n'est qu'un jeu. Ça n'a aucune importance. Ce qu'il aime, c'est faire des clins d'œil au public et danser d'un pied sur l'autre en se regardant dans un miroir de poche. On dirait la reine rouge d'Alice au Pays des Merveilles. On dirait un homme politique d'aujourd'hui, un bouffon. Vous faisiez une référence à Matteo Salvini ou pas?
Non, parce qu'il ne l'avait pas encore dit à ce
voilà,
moment-là.
Voilà. Mais vous voyez, Roberto, il y a correspondance.
Si, c'est vrai. Infatti, sembrava
oui, tout à fait.
La description de qualcuno che conosco.
La description de quelqu'un que je connais bien.
Mais c'est, en fait, c'est aussi dans cette année-là, avec la campagne de Thatcher, c'est aussi un moment où on invente une façon très spectaculaire de faire de la politique, qui est devenue habituelle aujourd'hui. Et Thatcher, quand elle fait campagne, elle fait appel à un cabinet de publicistes. C'est la première à faire ça. Saatchi & Saatchi, c'est un grand cabinet international, quoi.
Genre devenu galerie d'art maintenant.
Voilà, ouais. Et elle orchestre une campagne qui est très drôle, qui touche les classes populaires, qui est très orientée aussi vers une catégorie sociale particulière de femmes. Elle insiste beaucoup sur les images. Elle se fait photographier. Elle visite une usine de confection. Elle s'assoit à la place d'une ouvrière et puis elle coud une poche sur une veste. Et toutes les femmes qui regardent leur télé ce soir-là se disent, oh, elle est comme nous.
Et labor is not working.
Et voilà, sa campagne terrible. Est incroyable parce qu'il y en a une grande affiche avec une file de gens qui font la queue pour l'Agence pour l'emploi. Et le slogan, c'est labor isn't working. Voilà. C'est-à-dire, à la fois, le travail ne marche plus, le chômage augmente, et en même temps, le parti travailliste.
Le labor party,
ne vous fournit plus de travail. Et donc, elle a comme ça une campagne à la fois très drôle, très provocatrice, très moderne, en fait. Et d'ailleurs, elle y arrive.
Alors, il y a une grande dimension de dérision dans votre livre où parfois tout est décrit comme n'étant pas vraiment sérieux. D'ailleurs, ça rappelle tout à fait aussi l'univers de Piranha où on joue avec les symboles. Vous accordez une grande importance à l'humour des Londoniens. Je vous cite, la vieille gauche au pouvoir complètement déconnectée s'en est devenue une blague. La crise? Quelle crise? Les gens répètent ça toute la journée avec d'infinies variations. La pluie? Quelle pluie? Les embouteillages? Quels embouteillages? La gauche? Quelle gauche? Et vous mettez ça en rapport avec cette campagne dont on parlait, donc Labour is not working, qui est un jeu de mots typiquement anglais, et vous décrivez les gens qui regardent l'affiche, même s'ils sont concernés. Les gens regardent l'affiche et ils sourient. Ils approuvent, même les gens de gauche. On en est là, même les jeunes, parce que c'est drôle, parce que c'est punk de prendre les choses avec dérision. La victoire de Thatcher, c'est la victoire de la dérision, c'est la victoire du théâtre dont on parlait.
Eh ben oui, en tout cas dans la façon de faire de la politique et de la présenter, ouais. C'est la championne des petites phrases assassines et enfin drôles. On dit depuis 5 minutes qu'elle est drôle. Si on est cynique, c'est un répertoire cynique quand même.
Je disais dérision
dans l'humour. Ouais. Et donc elle est la championne des petites phrases assassines et elle est à tel point qu'elle a encore un fil Twitter. Il y a quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, qui alimente le fil Twitter de Margaret Thatcher en publiant des citations d'elle, qui sont toutes plus horribles les unes que les autres. J'arrive pas à savoir d'ailleurs si c'est dans un but ironique ou pas. Parce qu'on vit une époque comme ça aussi maintenant. C'est-à-dire, quand on est arrivé au bout de cette communication tous azimuts, eh ben aujourd'hui, finalement, le fil Twitter de Margaret Thatcher, avec des phrases horribles du genre... Personne ne se souviendrait du bon samaritain s'il n'avait que des bonnes intentions. Il avait de l'argent aussi. Il faut oser dire des trucs comme ça. Et même ces phrases-là, eh ben aujourd'hui, finalement, quand elles apparaissent sur Twitter, je ne sais plus si l'intention de l'auteur est ironique ou premier degré, brutal.
Roberto Saviano.
Oh, intéressantissimo ascoltare queste cose.
Oui, c'est très, très intéressant d'écouter dal punto di vista... tout ça.
Appunto anche del racconto di Margaret Thatcher.
Surtout, voilà, si on pense à ce
perché
que
mentre ascolto, mentre ti ascolto,
disait, en vous écoutant, en fait, comprendo
che tutto il sovranismo che sta nascendo in Europa, che sta comandando in Europa.
Sovranismo qu'on retrouve in Europa.
Figlio di, esattamente di quell'epoca.
Fils exactement de cette époque.
Et le linguaggio che oggi usa
le
Salvini,
ma
anche Le Pen,
utilise Salvini,
anche la destra
Le
tedesca.
Pen.
È
la
lì
droite
che ha iniziato
allemande,
ad avere,
fait,
come
a
dire,
commencé à
il suo
cette
DNA.
Époque. C'est là qu'on retrouve son ADN.
Et quindi secondo me è lì che bisogna iniziare
oui,
a guardare.
Peut-être il faut commencer à regarder à partir de là.
Et ça c'est aussi un des enseignements, on parlait tout à l'heure de l'importance de la fibre sociale de chacun de vos romans, Thomas Reverdy et Roberto Saviano. Ça c'est quelque chose aussi que, non pas vous avez découvert, mais que vous vouliez qu'on comprenne aussi que finalement l'origine d'aujourd'hui, là Roberto Saviano parle du souverainisme, ça commence peut-être aussi avec oui. Thatcher, paradoxalement.
Paradoxalement, oui. Alors peut-être chez moi, c'est une façon de se retourner. Hein. C'est-à-dire, j'ai grandi, moi, dans les années 80, avec le sentiment qu'il se passait rien, enfin, qu'on était à la fin de l'histoire, il y avait la guerre froide, on attendait que le mur tombe, et puis ouais, finalement, il est tombé. C'était une espèce d'événement, non-événement, puisque ça annonçait que c'était
enfin
fini.
Il y avait la guerre des étoiles, quand même.
Voilà, mais...
Lancé avec les satellites, voilà.
Des étoiles. Et finalement, lorsque je me retourne aujourd'hui, je m'aperçois que le monde a changé. C'est-à-dire, vraiment, il a connu une révolution. Et il n'y a pas que la cocaïne qui s'est globalisée, en fait. Tout s'est globalisé. Et c'est une révolution énorme, mais qui s'est faite sans le dire. Qui s'est faite en nous faisant croire qu'il ne se passait rien. Et donc, il y a une stupéfaction et une envie, évidemment, de savoir ce qui s'est passé, comment c'est arrivé. Quoi.
Alors, il y a une chose aussi, il y a eu une révolution dans la musique à cette époque-là. Il y a eu le punk. Il y a eu les Pistols, il y a eu la Cold Wave, il y a eu les Clash. Vous avez choisi de nous faire écouter London Calling. La musique est extrêmement importante dans votre livre. On écoute. London Calling, les Clash, évidemment, c'est le choix de Thomas Reverdy qui publie L'hiver du mécontentement chez Flammarion. On est avec lui, avec Roberto Saviano qui publie Piranha chez Gallimard. Bon, évidemment, les Clash, groupe emblématique de cette période qui est au centre de votre roman, donc cet hiver 78-79. La musique, je disais, joue un rôle absolument considérable dans le livre, tout simplement parce que chaque tête de chapitre commence par une citation tirée d'une des chansons de l'époque, et qu'il y a, il y a même un track listing, comme on dit en anglais, une liste de chansons pour les lecteurs, qui va évidemment de oui, Marianne Faithfull, Broken English, The Jam, Adam and the Ants, Joy Division, Bowie, Siouxsie and the Banshees. Dans l'écriture, vous shootiez au clash pour vous remettre dans l'époque ?
En fait, c'était exactement une façon de oui, c'est ça, de me plonger dans l'époque. Hein, c'est-à-dire, les images étaient de peu d'utilité parce que finalement, quand on regarde Londres aujourd'hui, qui est devenue une espèce de vitrine du luxe international, c'est l'endroit au monde où je vois le plus de voitures de luxe, quoi, des Ferrari, des Rolls-Royce, c'est incroyable. Et du coup, on peut absolument pas s'imaginer ce qu'était Londres dans les années 70. Parce que Londres dans les années 70, c'était une ville qui sortait encore de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, avec des façades noires, d'une population très pauvre, un chômage qui commençait à être un chômage de masse, des gens qui vivaient dans des taudis, qui étaient logés par l'assistance, qui étaient dans des conditions épouvantables. Et Johnny Rotten, le chanteur des Sex Pistols, raconte que dans son enfance, il attrape un méningocoque, là, parce que, dit-il, il joue avec les enfants dans des flaques où pissent les rats. Donc, voilà, ça donne une idée de... Voilà, c'est le Londres du 19e, en fait. Et donc, les images étaient de peu d'utilité. Alors, pendant un an et demi, pendant que j'écrivais, un moyen d'être dans l'époque, quand même, c'est de faire cette playlist et de la voir en permanence sur les oreilles.
Avant d'écrire, en écrivant.
Ouais, même. Alors parfois en écrivant, mais c'est une musique assez entraînante. Alors ça donne aussi un rythme, et du coup c'est difficile d'y résister. Alors ça me servait parfois quand je cherchais justement à être dans le rythme de mon héroïne qui pédale, qui est à vélo, qui traverse Londres comme ça en filant, et je voulais justement avoir quelque chose un peu de son énergie à elle. Elle a 20 ans, elle a envie d'en croquer, donc c'était important pour moi aussi.
Ça c'est important parce que je voudrais qu'on termine là-dessus. Vous avez choisi vous. On est dans un univers assez masculin hein, chez Saviano. Vous avez choisi vous. Le punk, d'ailleurs, il y a eu des filles, mais c'est vrai, quand on pense aux Pistols, même à la Cold Wave, c'est plutôt des garçons qu'on voit. Vous avez choisi une héroïne, Candice, qui fait du vélo, qui est coursière à vélo. Et alors, il y a une phrase qui est très troublante, justement, sur les enfants. Ces grands-enfants que sont Candice et ses amis. Nancy nous a dit un truc bizarre hier en répétition, on est toujours au théâtre. Et elle a dit que la tragédie, c'est toujours la tragédie des femmes. Et puis, plus loin, il y a cette phrase-là. Il n'y a qu'à regarder les enfants. L'amour, les romans, la tragédie, la vie, c'est pour les filles. Les garçons, ils jouent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jeu, c'est le privilège de celui qui a le pouvoir, parce qu'on joue beaucoup aussi chez Saviano, chez ces gamins du crime.
Ah oui, je crois qu'il y a, il y a un profond lien entre le pouvoir et le jeu. Et c'est ce qui fait la théâtralité, d'ailleurs, et c'est ce qui peut produire le personnage du bouffon quand on est dans une époque qui commence à tout mélanger. Mais il y a un profond lien, parce que, par exemple, le personnage de Richard III, c'est le seul qui s'adresse directement au public. Il fait des apartés, beaucoup de monologues dans cette pièce, qui sont des monologues courts, des espèces d'intermèdes entre les scènes, où Richard explique ce qu'il va faire. Vous avez vu mes neveux, vous les avez trouvés mignons, ben je vais les égouiller. Vous avez vu ma belle-sœur,
c'est Godard
là,
avant l'heure.
Voilà, ma belle-sœur est pleurée, et ben je vais coucher avec elle. Et il nous explique ce qu'il va faire, et en fait en faisant ça, il fait quelque chose de glaçant, c'est qu'il nous rend complices malgré nous, parce que du coup on rigole en le voyant, parce que c'est un bouffon. Et comme on rigole, et ben le coup d'après, quand il fait quelque chose d'horrible, on a été finalement complice du tyran en rigolant. Et donc ça, c'est voilà, un lien entre le jeu et le pouvoir qui est...
Vous pensez à quelqu'un aussi en le disant ça, en vous tournant vers Roberto Saviano, quelqu'un qui fait rigoler les foules et qui habitue les gens au rire pour presque les mitridatiser finalement.
Ouais, bien sûr. Mais en Italie, c'est des spécialistes de ça, parce que Berlusconi, c'était quand même déjà un peu un bouffon.
Voilà, il y a d'ailleurs le film de Sorrentino qui va sortir bientôt.
Sì, ma il leader carismatico del partito di governo.
Carismatico du parti.
È un giullare.
Il governo è un buffon.
Beppe Grillo.
Beppe Grillo.
Che è felice di dichiararsi
Beppe
un
Grillo
comico.
È très heureux de déclarer qu'il est un comique.
En fait, il est un comique. Il meccanismo è esattamente questo.
Et donc, c'est toujours le même mécanisme.
Gli credi,
c'est-à-dire dès que tu commences
inizia quindi il percorso politico, lui dice ma stavo scherzando.
Commence et lui répond, mais j'étais en train de blaguer.
Roberto Saviano, pour terminer, vous parvenez aujourd'hui à oublier les menaces pour penser davantage à la littérature ?
E non riesco, non penso alle minacce, penso
je
semplicemente
ne pense pas aux menaces. Je pense tout simplement
non essere morto,
au fait que je ne suis
ma
pas
non
mort,
neanche vivo.
Mais je ne suis pas vivant non plus.
E, insomma, esattamente la dimensione
et
letteraria.
Et donc, c'est vraiment la dimension littéraire.
Merci Roberto Saviano.
Grazie.
Merci Thomas Reverdy.
Merci.
Je voulais lire une dernière phrase sur la musique, quand même, pour terminer un peu en musique, mais avec des mots. Jones rêve d'une musique qui serait comme la vie, changeante et imprévisible. Une musique qui n'aurait pas de mouvement connu à l'avance, pas de rythme fixé ni de rupture attendue. Une musique qui ne mentirait pas, où les instruments seraient comme des gens qui se croisent et se rencontrent par hasard, se côtoient sans se voir et se quittent sans se comprendre, des gens qui vivent et qui meurent, ignorant des autres comme du monde. Il rêve d'une musique qui ne raconterait pas d'histoire. Voilà, c'est un peu ce que vous essayez de faire à travers la littérature. Voilà, même si des histoires, vous en racontez et des belles. Merci Roberto Saviano.
Merci, grazie.
Merci Thomas Reverdy. Merci Antonella pour cette traduction. Je rappelle le titre de vos livres. Donc Roberto Saviano, Piranha, c'est traduit de l'italien par Vincent Reynaud, c'est chez Gallimard. Et Thomas B. Reverdy, L'hiver du mécontentement, c'est chez Flammarion. Le temps des écrivains, c'est Anne-Catherine Lochard, Jean-Christophe Francis à la réalisation, à la technique Catherine Derette. Vous pouvez nous suivre et commenter sur Facebook et Twitter, podcaster pendant un an, et réécouter pendant un temps infini sur franceculture.fr, 7h avec Thomas Reverdy et Roberto Saviano.